Chapitre 9. Alors qu'il retraverse la chaussée submersible, Becker croit voir quelque chose dans son rétroviseur. Un éclair bleu. Mais pas le bleu du ciel ou de la mer, quelque chose de plus clair, d'artificiel, qui n'est pas à sa place dans le paysage. Un bleu qui rappelle un gyrophare. Il s'arrête et descend de la voiture. L'air est humide. Une nappe de brouillard venue du large se dirige rapidement vers la côte et a déjà englouti une partie de l'île. Il a beau scruter la colline, il ne remarque rien d'anormal. Au bout d'un moment, son corps se met à frémir sous l'effet d'une peur diffuse. Cette brume qui fond sur lui le pousse à imaginer ce qui se passerait s'il se retrouvait piégé par la marée, un scénario d'autant plus inquiétant que Becker est un piètre nageur. Il s'empresse de se réinstaller au volant et regagne le continent à vive allure, ignorant les rebonds de la voiture à chaque bosse et chaque nid de poule. « Bon, songe-t-il morose, ça n'aurait pas pu plus mal se passer. » À la sortie du village d'Eris, il y a un pub. Becker se gare sur le parking et reste assis dans son siège une longue minute, les mains sur le volant. Autant il a hâte d'être de retour chez lui, autant il ne se sent pas prêt à faire la route. L'angoisse qu'il a ressentie dans la matinée est revenue, une pression intense sur ses tempes, un poids sur sa nuque. Et bientôt une certitude lui apparaît. S'il part maintenant, alors que la nuit est en train de tomber, il n'arrivera jamais à destination. Il sort son téléphone portable et s'apprête à appeler Elena. Comme toujours, elle saura dissiper ses craintes et le ramener à la raison. Quand il découvre que Sébastien a essayé de le joindre. 3 fois. Tant pis, sa décision est prise. Il descend de la voiture et se dirige vers le pub. L'établissement n'a rien de chaleureux, il est même franchement austère. Une grande pièce rectangulaire avec un comptoir en bois sombre à une extrémité et quelques tables disséminées de ci de là. Les seules personnes présentes sont un groupe de 3 jeunes rassemblés autour d'une table et une femme d'une 40aine d'années debout derrière le bar, les yeux rivés sur son smartphone. La femme lève la tête vers Becker.
« Qu'est-ce que je vous sers ?»«
Pour tout vous dire, je me demandais si vous auriez une chambre pour la nuit. »«
Mais bien sûr !»
acquiesce la tenancière en se retournant pour attraper 2 clés sur un tableau.
« D'ailleurs, vous avez le choix, la grande ou la petite ?» La petite est moins chère, mais elle n'a pas de salle de bain privative.
Becker opte pour la grande qui, comme le pub lui-même, se révèle fonctionnelle à défaut d'être accueillante. Au moins, elle a l'air propre. Soudain, derrière l'odeur de bière éventée qui a imprégné les murs, il perçoit un effluve qui le met en appétit. Quelque chose qui cuit, lui semble-t-il. Une quiche, peut-être ? De retour au bar, Becker commande une tourte à la viande et une pinte de bière brune qu'il déguste en lisant le reste des articles compilés dans son dossier, dans l'espoir, probablement vain, d'y dénicher un élément qui lui permettrait de trouver un terrain d'entente avec Grace Aswell. Chapman n'accordait que très peu d'interviews, peut-être parce qu'elle avait mauvais caractère, comme le prétendaient les journalistes, ou peut-être parce qu'elle était fatiguée que les journalistes critiquent son caractère à longueur d'article. Même au sommet de sa gloire, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Vanessa n'évoquait que très rarement son travail en public. Mais à partir de 2002, l'année où son mari a disparu et où elle a refusé dans la foulée de présenter ses œuvres à l'exposition qui devait lui être consacrée à la galerie de Douglas Lennox à Glasgow, elle ne s'est plus jamais adressée à la presse. Après avoir fermé son ordinateur portable et l'avoir glissé dans sa pochette, Becker prend son verre et retourne s'installer au bar. Entre-temps, la tenancière a été rejointe par son mari, un maigrichon au visage couperosé qui s'est perché sur un tabouret à l'extrémité du comptoir pour lire le journal local. « Cette tourte était vraiment excellente », dit Becker à la tenancière qui hoche poliment la tête.
« Vous cherchez une location saisonnière dans la région ?»«
Oh non, pas du tout. Je suis venu rendre visite à Grace Aswell sur l'île. »
« Je vois. C'est une amie à vous ?»«
Non, je suis conservateur. Je travaille pour un musée dans le sud de l'Écosse. À sa mort, Vanessa Chapman nous a légué certaines de ses œuvres. »«
Ah, c'est vous alors ? Nous avons tous été très affectés par le décès de Madame Chapman ici. C'était une femme adorable. Très gentille, un peu bohème, glamour, et très populaire auprès de la gent masculine. »
ajoute-t-elle avec un clin d'œil. Le mari lève la tête de son journal et lance un regard noir à son épouse. « Elles n'ont jamais embêté personne, » marmonne-t-il en se tournant vers Becker. « Ni elle, ni la docteur. Des femmes sans histoire. »«
Maintenant que j'y pense, » intervient sa femme, « il y a bien eu cet épisode avec le mécanicien. »«
T'as pas à faire en cuisine, Shirley ?» gronde l'autre.
Shirley hausse les épaules, adresse un sourire à Becker et disparaît à l'arrière. Becker s'apprête à regagner sa chambre quand le tenancier se remet à marmonner.
« Elle était à la retraite, vous savez. »«
Pardon ?»«
Docteur Aswell, pendant la pandémie, elle est retournée travailler à l'hôpital alors qu'elle était à la retraite. Des 15 heures d'affilée qu'on la faisait trimer. »
Et il fusille Becker du regard, comme s'il était personnellement responsable de ses horaires inhumains.
« Après tout ce qu'elle a vécu, ça me chiffonnerait qu'on vienne lui chercher des noises. Elles ont jamais embêté personne, »
répète-t-il. De retour dans sa chambre, Becker appelle Elena.
« C'est curieux, les locaux semblaient beaucoup apprécier Vanessa. »«
Qu'est-ce que ça a de curieux ?»
s'enquiert Elena.
« Rien, je suis surpris, c'est tout. Une Anglaise un peu snob qui débarque dans un coin perdu d'Écosse pour acheter une île et y vivre recluse. » Sans oublier que Chapman avait la réputation d'être froide, capricieuse, hautaine. Et pourtant les gens d'ici, le tenancier du pub et sa femme en tout cas, n'ont que des compliments à faire à son sujet.
« Hum !»
marmonne Elena, absente.
« Quoi, hum ?»«
Peut-être que c'était une bonne cliente ?»
suggère Elena avec un éclat de rire.
« Je ne sais pas, Beck, mais j'imagine que Vanessa était capable de se montrer tout à fait charmante. Et toutes ces choses que les critiques lui reprochaient, qu'elle était... hautaine, têtue, susceptible. C'est typiquement ce qu'on a tendance à dire d'une femme qui sait ce qu'elle veut, non ?
Tu crois ?
Bien sûr. D'ailleurs, dans certains milieux, une femme qui n'a pas d'enfant ne peut être qu'égoïste ou égocentrique.
Ah bon ? S'étonne Becker. Et il peut presque voir Elena lever les yeux au ciel.
Il faut absolument que tu retournes voir Grace Aswell. De toute façon, c'est pour ça que tu es là-bas, non ? Si tu veux vraiment découvrir qui était Vanessa, tu dois d'abord trouver un moyen de te faire accepter par celle qui a été son amie, sa compagne, les deux, peu importe. C'est elle qui saura s'il y a des squelettes dans les placards.
Soudain, Becker croit entendre une voix en arrière-plan, à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que c'était ? » demande-t-il.
« Le livreur de pizza. »
répond Elena d'un ton langoureux.
« Il sort tout juste de la douche. »
Becker expire bruyamment et Elena soupire.
« C'est la télé, Beck. Quel parano. Je profite de ton absence pour regarder l'incroyable famille Kardashian. »«
Je t'aime, » dit Becker.
« Nous aussi, on t'aime. »«
Toi et le livreur de pizza ?»«
J'ai dit le. Je voulais dire les. »
Il met fin à l'appel et se replonge dans son dossier Vanessa Chapman, en prenant soin d'éplucher les différents articles avec un œil plus critique. Évidemment qu'elle n'était pas hautaine. Évidemment que c'était de la misogynie pure et simple de la part des journalistes. Tous des hommes, d'ailleurs. Des hommes avec des a priori, des hommes jaloux de son succès. Ce n'est que lors de sa dernière relecture que Becker se rend compte de l'absence flagrante de Grace Aswell. Son nom n'est presque jamais mentionné, à part dans un ou deux avis de décès, pour préciser qu'elle était l'auxiliaire de vie de Vanessa. Par contre, elle ne s'exprime nulle part. Peut-être qu'elle ne voulait pas parler à la presse, ou que Vanessa lui avait demandé de ne pas le faire. Mais il y a une hypothèse beaucoup plus probable. Après la mort de Chapman, les journalistes étaient bien trop occupés à recueillir les réactions d'artistes de renom pour s'intéresser à la petite généraliste de province qui connaissait le mieux la défunte. Becker referme son ordinateur. Il est éreinté, il a mal au dos et aux épaules à cause de la route et de tout le temps qu'il vient de passer voûté sur son clavier. Il se lève, se traîne jusqu'à la minuscule salle de bain, en s'efforçant de ne pas trop faire grincer les lattes du plancher, puis, après s'être étiré et avoir fait craquer son cou, il se plante devant la cuvette des toilettes. Sa tête frôlant le plafond, il urine en regardant par le Velux une lumière solitaire au loin. Comme il serait facile de ne pas remarquer Grace Aswell, comme il serait facile de passer à côté sans la voir. De retour dans la chambre, il rouvre son ordinateur et se lance dans la rédaction d'un email. Docteur Aswell, il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler, tellement de questions que j'aimerais vous poser. À mes yeux, cet os, et je tiens à vous assurer qu'il ne m'est jamais venu à l'idée qu'il ait pu appartenir à Julian Chapman, n'est qu'un détail insignifiant. C'est simplement quelque chose que je dois faire, un problème que je dois régler, Cela fait partie de mon travail en tant que conservateur de la Fondation Fairburn. Je voudrais que vous me racontiez votre vie avec Vanessa, que vous me parliez de la femme qui se cachait derrière l'artiste, de la femme que vous êtes la seule à avoir connue. Il s'agit bien entendu en partie d'une curiosité professionnelle à satisfaire. J'ai écrit une thèse sur le développement de la peinture de paysages non traditionnels, thèse où Vanessa occupait une place centrale. Mais mon lien à son travail a des racines bien plus profondes et bien plus lointaines. Comme tous les passionnés d'art, j'ai deux types de souvenirs, les souvenirs personnels et les souvenirs artistiques. Parfois, les deux se chevauchent. Ma mère était une aquarelliste de talent. Elle a commencé les beaux-arts avant de devoir mettre ses études entre parenthèses quand elle est tombée enceinte de moi. Elle avait l'intention de reprendre un jour, mais comme mon père est parti sans laisser d'adresse et que ma grand-mère, qui était déjà veuve à ce moment-là, n'avait pas les moyens de nous entretenir tous les trois, elle n'a eu d'autre choix que de trouver un travail. Pendant des années, elle a été caissière dans une supérette du centre de Bicester, à quelques mètres d'une petite galerie qui s'appelait Harry West Art. Comme vous le savez sans doute, il s'agit de la première galerie à avoir exposé les œuvres de Vanessa. Maman adorait s'y rendre à sa pause déjeuner ou après sa journée de travail pour admirer les tableaux. Un jour, elle a craqué et elle a acheté une minuscule huile sur toile de 20 cm sur 12, qui lui a coûté l'équivalent d'une semaine de salaire ainsi qu'une prise de bec d'anthologie avec ma grand-mère. Ce tableau représentait une haie d'un vert éclatant, avec çà et là des fleurs des champs mauves et jaunes. On pouvait presque sentir l'odeur d'été qui s'en dégageait. Mais le plus original, c'est que l'artiste avait collé plusieurs éléments réels sur la toile. Des brins d'herbe, des pétales. Je me souviens de mon excitation quand j'ai découvert qu'elle y avait aussi incrusté une aile d'insecte, presque transparente. Malgré sa taille très modeste, c'était le genre de tableau qu'on ne se lasse pas de regarder. Le genre de tableau qui vous apporte quelque chose de nouveau chaque fois que vous l'examinez. Ma mère l'a accroché au mur juste à côté de son lit. Des années plus tard, quand elle a dû être transférée dans une unité de soins palliatifs, elle n'a pris que deux effets personnels avec elle. Une photo encadrée de nous deux et ce petit tableau. Un ou deux ans après sa mort, quand je me suis enfin senti le courage de vider le sac de l'hôpital contenant ses affaires, son pyjama, sa trousse de toilette, j'y ai trouvé le cadre photo, mais pas le tableau. J'ai décidé de me mettre à sa recherche. J'avais 13 ans à l'époque. Je me sentais seul, j'étais en colère et je ne connaissais rien à la peinture. Heureusement, ma grand-mère se rappelait que l'artiste s'appelait Chapman. C'était dans les années 1990, avant l'arrivée d'Internet et de Google. Mais j'ai eu la chance de dénicher dans les archives de la bibliothèque municipale une interview que Vanessa avait donnée à Art Now, après une foire artistique à laquelle elle avait participé en 1995. Je me souviens d'avoir été non seulement frappé par sa beauté, je vous rappelle que j'étais un adolescent, mais surtout par ce qu'elle a dit au journaliste quand celui-ci lui a demandé ce que signifiait le fait de peindre pour elle. Je peux vous citer sa réponse parce que j'ai lu ses lignes tellement de fois qu'elles sont désormais gravées dans ma mémoire. L'art est quelque chose qu'on laisse derrière soi. L'art est un réconfort. L'art apaise, console, excite. L'art est un métier, une activité qu'on fait toute la journée. L'art permet de résoudre les problèmes, de comprendre le monde. L'art offre l'opportunité de repartir de zéro, de retirer le voile, de se venger, de tomber amoureux, de faire une bonne action, de vivre longtemps. Après plusieurs années de recherche, j'ai fini par retrouver ce fameux tableau. Et, 1993, à une vente aux enchères chez Christie's. Je l'ai acheté avec ma première paye. Ma mère aurait été choquée par son prix, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle se doutait qu'un jour, le monde entier finirait par reconnaître le talent de Vanessa. Quoi qu'il en soit, je pense qu'elle serait heureuse de savoir que cette petite huile sur toile est désormais accrochée à côté de mon lit. J'espère sincèrement que la lecture de ce message vous permettra de comprendre pourquoi je tiens tant à vous revoir et à vous parler. Cordialement, James Becker. En tout début de matinée, juste avant l'inversion de marée, son téléphone émet une vibration. Le cœur battant, Becker déverrouille l'écran en songeant « Elena ». Mais il a simplement reçu un email. « Monsieur Becker, Merci pour votre message. Si vous êtes toujours à Eris, vous pouvez venir aujourd'hui. La marée basse est à 8 heures. Comprenez bien que je n'accepterai de vous parler qu'à la condition que vous demandiez à vos employeurs de cesser de me harceler. Si vous y êtes disposé, nous pourrons reprendre notre discussion. Cordialement, Grace Aswell.